Bon, alors, décortiquons un peu ça. Aujourd'hui, on entend tout le temps cette même rengaine dans les médias, dans les conférences tech, genre l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs, l'automatisation va balayer les ingénieurs logiciels.
Ouais, le grand remplacement technologique, quoi.
Bah voilà, exactement. Et que très bientôt, l'être humain, bah, il fera plus que regarder des lignes de code défiler sur un écran. C'est vraiment le récit ultra classique de la machine qui prend le dessus.
C'est clair.
Mais aujourd'hui, pour notre exploration, on plonge au cœur d'une documentation qui est assez fascinante parce qu'elle propose exactement l'inverse.
Tout à fait. Et c'est ça qui est hyper rafraîchissant.
Ouais. On a sous les yeux un dépôt GitHub public qui s'appelle Foyer. C'est d'une production intellectuelle d'un certain Gilles Maury. Et ce qu'on y trouve, c'est vraiment le plan d'un cadre de travail ultra rigoureux où l'humain reste, mais sans l'ombre d'un doute, le patron absolu face à la machine. Je suis vraiment curieuse d'en parler.
Et il y a un détail hyper amusant à souligner dès le départ, enfin amusant, disons révélateur. Quand on regarde l'historique des contributions de ce dépôt, ben la plateforme affiche deux auteurs sur les derniers commits.
Ah ouais.
Ouais, il y a Gilles Maury, qui est un être humain, et il y a Claude, qui est ben, une intelligence artificielle.
Ah, c'est génial ça. Donc c'est même pas un document écrit par un technophobe qui refuse l'IA en fait.
Ben non, pas du tout. C'est le manuel d'une collaboration qui est extrêmement structurée. Ce cadre, le fameux cadre Foyer, son but, c'est de régir ce que son auteur définit comme le logiciel, et je cite, sobre, durable et transmissible.
OK.
Le but principal, c'est de fournir une méthode pour que n'importe quelle organisation puisse faire des choix technologiques hybrides, en toute sécurité.
Du coup, quand tu dis des choix hybrides, ça veut dire par exemple décider d'héberger ces données dans le cloud ou alors de les garder sur des serveurs locaux, c'est ça?
Exactement, ouais. Ou alors d'utiliser des solutions open source plutôt que des logiciels propriétaires. Ou même ben, d'intégrer une IA super puissante au lieu d'une simple base de données classique.
D'accord, donc la méthode, elle englobait tous ces scénarios-là, mais il y a une règle d'or, non? J'ai cru comprendre que c'était assez strict.
Ah ben, c'est très strict, ouais. La règle inébranlable, c'est que chaque décision technique, chaque fonctionnalité qu'on développe, ou chaque ligne de code qui est générée par un algorithme, ça doit se faire sous une responsabilité humaine stricte et indéfectible.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette notion de responsabilité, ça nous amène direct au cœur de la philosophie du dépôt. Ils utilisent un concept central, ils l'appellent le répondre d'eux.
Le répondre d'eux, ouais. Ça sonne presque juridique en fait.
C'est ça, juridique ou même morale, quoi. La question implacable que le document pose à tout le monde sur le projet, c'est pourrais-je en répondre et devant qui?
Et c'est une question fondamentale.
Grave. En gros, ça veut dire qu'un modèle d'IA a beau générer, je sais pas, 1000 lignes de code brillantes en 10 secondes, bah, si ce code il déclenche une faille de sécurité critique sur les serveurs de la boîte, l'algorithme il va jamais s'asseoir dans un tribunal, tu vois.
Ouais.
Mais non, une IA, ça s'explique pas devant un conseil d'administration. C'est le développeur ou le manager qui prend le blâme.
Exactement. Et pourtant, l'industrie tech aujourd'hui, elle cède super facilement à la tentation de déléguer la prise de décision à la machine.
Ouais. Souvent à cause de la pression de la rentabilité d'ailleurs. Faut aller vite, faut livrer vite. Mais le cadre Foyer, lui, il prend le contre-pied total de ça. Il impose à la machine une condition d'existence qui est purement humaine.
C'est-à-dire?
Mais dans ce système, le travail, il est modélisé sous la forme d'un cercle. Un cercle immuable. Ça commence par la conception, ensuite il y a la construction, après on a le résultat, puis l'évaluation, pour finalement arriver à l'amélioration.
Et ça tourne en boucle?
C'est ça. Et la mécanique subtile là-dedans, c'est qu'il y a un outil externe qui vient objectiver les résultats.
Objectiver, donc le mesurer de manière factuelle, quoi.
Ouais, froide et factuelle. Mais attention, c'est toujours l'être humain qui tient les rênes du processus du début à la fin.
Tu sais, ça me fait penser à un truc. Pour ceux qui nous écoutent et qui essayent de visualiser, c'est un peu comme un grand chef étoilé qui déciderait d'installer un robot cuisinier ultra sophistiqué dans son resto.
Ouais, bonne analogie.
Le robot, il peut émincer des légumes à la vitesse de l'éclair, il peut cuire une viande au dixième de degré près, c'est génial.
Sauf que si la sauce elle est ratée, ou pire, s'il y a une intoxication alimentaire, les clients ils vont pas blâmer le robot mixeur.
Bah non, carrément pas. La colère, elle va retomber direct sur le chef ou le propriétaire du resto.
Voilà, le chef, il est obligé de goûter les préparations en permanence en fait. Il utilise des thermomètres pour objectiver la cuisson de la machine, il évalue le résultat avec ses propres standards, et à la fin, bah, c'est lui qui assume.
Il répond de l'assiette posée sur la table, quoi.
Exactement, il en répond. Et pour garantir que ce chef logiciel, dans notre cas, conserve le contrôle absolu de sa cuisine numérique, le dépôt GitHub, il définit trois axes directeurs.
Ok, c'est quoi ces axes?
Le premier axe, c'est de définir qui est l'agent? En gros, ça revient à établir les valeurs fondamentales du système. Et c'est pas abstrait, hein? C'est codifié en dur dans un fichier qui s'appelle le manifeste foyer.
Ah ouais, donc avant même de taper une seule ligne de code ou d'allumer un serveur, on rédige une sorte de constitution pour l'IA, en fait.
C'est exactement ça, une constitution. Ensuite, le deuxième axe, c'est pour répondre à la question « quel outil objective ?». Là, il s'agit d'ancrer le projet dans le terrain réel.
Concrètement, ça se passe comment ?
Il y a un dossier nommé « Skills », donc les compétences. Ça rassemble les moyens de vérification pour attester, avec des preuves, que le travail demandé a bien été fait par la machine.
Ok, très clair. Et le troisième axe ?
Le troisième, il détermine qui tient le cercle et à quel grain. Là, on parle directement des rôles des humains, qui sont décrits hyper précisément dans un dossier « Personas ».
Donc, si je résume, ce triptyque, ça garantit que l'agent logiciel, l'IA, elle propose des solutions, mais seulement à l'intérieur d'un périmètre hyper bien délimité, toujours mesurable et toujours sous la surveillance d'un humain.
Ouais, c'est exactement ça, sous tutelle constante.
Bon, ça c'est la théorie, la philosophie brillante du répondre d'eux. Mais moi je me dis, ça risque pas de s'effondrer comme un château de cartes le lundi matin au bureau.
Ah, la fameuse confrontation avec L'Oréal ?
Bah oui. Comment ça se traduit dans le flux de travail quotidien d'une équipe de dev? Parce que la source parle d'une chaîne de montage de bout en bout, non?
Ouais, le flux fouillé. Et c'est là qu'on rentre dans la mécanique pure. La première étape, la conception, elle s'appuie sur une méthode qu'ils appellent BMAD.
BMAD, ça veut dire quoi ce jargon encore?
Alors, BMAD, c'est un acronyme. B pour business, la valeur commerciale. M pour motivation, le pourquoi du projet. A pour architecture, la structure technique, et D pour delivery, la livraison finale.
D'accord.
En fait, le cadre exige que 5 personas différentes, donc 5 profils humains distants, examinent chaque idée à travers ce prisme BMAD. Le but de ces 5 personnes, c'est de produire un carnet de commandes, ce qu'on appelle un backlog.
Ok, donc un backlog, pour clarifier pour notre audience, c'est juste la liste des tâches à développer, écrite pour que les techs puissent bosser dessus.
Voilà. Sauf que là, ce backlog, il doit absolument obtenir un verdict PASS, P-A-S-S, de la part de ces 5 personnes, pour être qualifié de AGIA ready. S'il n'y a pas ce pass unanime, bah, la machine n'a pas le droit de démarrer. Zéro improvisation.
Attends, je me fais l'avocat du diable. Hein. On demande à 5 cerveaux humains de se réunir juste pour valider qu'on a le droit de donner une tâche à une IA.
Ouais.
Mais c'est pas la définition même d'un goulot d'étranglement bureaucratique, ça ? Je veux dire, la grande promesse de l'IA, c'est la fulgurance, la rapidité, l'agilité. Là, ça casse pas tout cet avantage.
C'est l'objection numéro 1 que tout le monde fait. Mais la justification de cette lourdeur initiale, elle se trouve dans la suite du flux. Cette rigueur au début, c'est le prix à payer pour l'automatisation sécurisée derrière.
Ok, explique un peu comment ça s'accélère après.
Bah, une fois que t'as le fameux pass, on entre dans un corridor sécurisé, le chef de projet prend le backlog, il le découpe en passes d'agents pour préparer le terrain pour l'IA. Et là, on a 2 personnes qui entrent en scène, le lead développeur qui surveille la qualité du code et le Scrum Master.
Le Scrum Master, c'est un peu le chef d'orchestre de l'équipe au quotidien, c'est ça?
Il lève les obstacles, c'est ça. Et ce duo, ils font tourner le cycle tâche par tâche, mais avec des portes de validation drastiques. Le temps que tu as eu l'impression de perdre au début avec les 5 personnes, en fait, il empêche l'IA de générer des milliers de lignes de code hors sujet ou pleines de failles juste parce que les instructions étaient floues.
Ah ouais, je vois le genre. C'est hyper malin, en fait.
Grave. Et après, le flux continue avec l'ingénieur plateforme qui maintient les serveurs. Et tout à la fin, l'ingénieur support analyse si les utilisateurs adoptent vraiment la fonctionnalité. Ça permet de fermer la boucle et de rouvrir de la capacité pour un nouveau sujet.
Donc la lenteur super calculée du début, elle permet une vitesse massive et surtout sécurisée par la suite?
C'est ce qu'ils appellent la méta-boucle, ouais. Supervisée par un architecte solution. Ça évite totalement de créer de la dette technique. Tu sais, ces bouts de code bâclés qui finissent par tuer un projet à petit faux.
Ouais, la fameuse dette technique, le cauchemar de toute boîte tech. Mais on part d'orchestrer 5 profils humains, plus de l'IA, ça nous amène forcément au nerf de la guerre, l'argent.
Ah bah, l'argent, c'est toujours le cœur du truc, ouais.
Le simulateur TCO ROI Coprogo.lsx.
Ouais, il a été mis à jour très récemment d'ailleurs. C'est un simulateur qui calcule le coût total de possession, le ROI, et même l'empreinte environnementale du projet.
C'est ouf!
Et c'est ultra pragmatique. Ça casse direct le mirage actuel qui dit que générer du code avec l'IA, c'est quasi gratuit. Le cadre foyer, il a un principe génial pour le budget, c'est les 2 coûts partout.
Les deux coups partout, ok. Alors le premier coup, j'imagine que c'est lié à la machine elle-même.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les tokens, les jetons.
Pour rappel, un token, c'est la plus petite unité de texte qu'une IA lit ou écrit. Ça correspond en gros à une syllabe ou un mot. Et quelques pour 1 million de mots générés. Mais c'est dérisoire comme coût de production.
Mais c'est que dalle, c'est juste une petite ligne sur la facture du cloud. C'est le deuxième coup qui fait mal.
Ah, le fameux deuxième coup.
Le document appelle ça le wall clock, le temps de l'horloge murale. C'est le temps physique réel au bureau, par opposition au temps de calcul de la machine, qui est instantané. C'est ce qu'ils appellent la latence d'objectivation.
En bon français, c'est le temps humain pour superviser le travail de l'IA.
Exactement. Et pour estimer ça, ils utilisent une technique super connue en agilité. Les tailles de t-shirt.
Ah ouais, le SML.
Voilà. Pour chaque bout de code généré, ils assignent une taille. Un small, ça veut dire une demi-journée de travail humain de vérification. Un medium, c'est 3/4 de journée. Et un large, bah, ça veut dire qu'un humain va devoir passer une journée entière pour lire l'algo, l'objectiver et en assumer la responsabilité.
Ah ouais, et là, c'est plus du tout le même tarif. Parce que générer le code, ça prend 3 secondes et ça coûte 2 €. Mais l'ingénieur qui va devoir lire ce code, vérifier qu'il s'intègre bien sans casser le système et signer en bas de la page pour dire j'en réponds, bah, son salaire pour la journée, c'est plusieurs centaines d'euros.
Mathématiquement, le tableur éprouve que le vrai goulot d'étranglement financier, c'est plus la production. C'est exclusivement la phase de vérification.
L'illusion de l'IA gratuite, elle se prend le mur du temps de supervision, en fait. L'attention experte, c'est la ressource la plus chère.
C'est clair.
Mais du coup, ça soulève un problème psychologique énorme. Imagine un manager, fin de mois, il a la pression sur le planning, le budget est serré, il voit que l'IA a fait un super boulot depuis des semaines, 0 bug. La tentation de rogner sur cette vérification, de valider les yeux fermés pour économiser une journée large de salaire, elle doit être immense, non ?
Elle est gigantesque. Et c'est le grand danger de l'automatisation. Comment on empêche la boîte de tomber dans ce piège de confort ? Parce que juste écrire dans le manifeste « Soyez éthique et responsable », ça marche jamais face aux chiffres.
Bah oui, c'est sûr.
Du coup, la méthode Foyer déploie un truc qu'ils appellent l'enforcement.
L'enforcement, donc la contrainte pure, quoi.
Voilà. Le blocage déterministe, le système informatique lui-même, doit interdire physiquement aux humains d'être négligents. Ça passe par 3 anneaux de sécurité.
Ok, je t'écoute pour les anneaux.
Le premier, c'est les permissions de l'agent IA. On limite les dossiers qu'elle a le droit de lire. Le deuxième, c'est des plugins de contrôle qui filtrent les actions en temps réel. Mais le truc le plus fou, c'est le troisième anneau. La rigidité absolue. Ils appellent ça le substrat.
Le substrat ? C'est un côté très matrice, très science-fiction. C'est quoi concrètement ?
C'est les fondations techniques en dur de la boîte. Ça inclut des trucs comme les hooks Git.
Un hook Git, c'est quoi en gros, pour ceux qui suivent pas la technique au quotidien ?
En gros, c'est un douanier intransigeant posté à la frontière du code de l'entreprise. Si un développeur soumet du code, mais qu'il n'y a pas la preuve électronique formelle qu'un humain a fait le processus de vérification, bah le douanier automatique bloque tout et rejette la modification.
Ah ouais, radical. T'as pas le tampon, tu rentres pas.
C'est ça. Le substrat, il utilise aussi des pipelines de CI, donc d'intégration continue. Le code doit passer des centaines de tests automatiques obligatoires. Il y a aussi des bacs à sable, des environnements virtuels isolés, où l'on teste le code sans risquer de casser la vraie production. La doc dit clairement que c'est de ce substrat, de cette mécanique froide et bloquante, dont l'humain répond ultimement.
En fait, l'infrastructure technique exige la preuve de l'intervention humaine. Le code t'empêche de déployer si t'as esquivé le boulot de vérification. Et ça, ça fait écho à un avertissement vraiment hyper percutant que j'ai vu dans le fichier README du dépôt de Gilles Maury.
Ouais, la fameuse phrase.
C'est ça. L'ennemi juré, le péril absolu surveillé par le cadre Foyer, c'est un système qui deviendrait, je cite, « assez fiable pour qu'on cesse de vérifier ».
Et c'est paradoxal, non ? L'automatisation, elle a ce truc très pervers. Quand un logiciel fait des erreurs grossières tout le temps, la vigilance de l'humain, elle est au max. On scrute tout.
Bah oui, on n'a pas confiance.
Mais quand le taux de réussite frôle la perfection, bah la confiance aveugle remplace la vigilance.
C'est exactement le syndrome de la voiture autonome sur l'autoroute.
Ah oui, la fameuse analogie.
Bah oui. Le moment le plus risqué avec l'autopilote d'une voiture, c'est pas quand il est hésitant, qu'il donne des coups de volant ou qu'il galère à lire les lignes blanches.
Bah non, parce que là, tu paniques un peu, t'as les mains crispées sur le volant, tu regardes la route comme jamais.
Exactement. Ton adrénaline te garde focus. Le moment mortel, c'est quand l'autopilote est parfait à 99%. Le trajet est ultra fluide pendant 200 km, zéro intervention.
Et là, le cerveau humain déconnecte.
Le conducteur se détend complètement, il fait une confiance aveugle au logiciel, il prend son tel, il discute avec les passagers, il regarde plus la route. Et c'est là, dans ce minuscule 1% d'imprévu, genre un objet qui tombe d'un camion, que l'accident tragique arrive. Juste parce que l'humain était sorti de la boucle de décision.
C'est terrifiant, mais c'est tellement vrai. Et cette analogie, elle illustre à la perfection le danger du développement logiciel assisté par IA. Le substrat de la méthode Foyer, avec ses douaniers guides et ses blocages, en fait, c'est le capteur de pression dans le volant.
Ah ouais.
Il détecte si l'humain n'a plus les mains sur le projet et il bloque tout pour forcer la reprise du contrôle. Le but, c'est pas d'interdire l'IA. Au contraire, il se budgète ses moindres tokens. Le but, c'est d'interdire l'illusion du pilotage automatique intégral.
C'est vraiment une exploration fascinante de ce dépôt foyer. Il y a un équilibre méthodologique de dingue. D'un côté, on embrasse l'innovation, on utilise la puissance de l'IA pour générer du code en masse. Et de l'autre, il y a cette rigueur quasi philosophique.
Le répondez d'eux, l'objectivation, l'estimation des heures en taille de t-shirt.
Ouais. Ça garantit que la course à la productivité, elle sacrifie jamais le contrôle et la sécurité de l'entreprise.
Et tu sais, je suis convaincu que l'importance de ce document, elle dépasse de loin le monde exclusif du code ou de l'informatique.
Carrément.
En structurant des choix hybrides comme ça, cloud, IA, open source, ce manifeste, il pose les bases d'une méthode pionnière pour le travail intellectuel en général pour les décennies à venir. Ça détruit le mythe de l'IA autonome qui gère tout, toute seule.
Déléguer à une machine sans une infrastructure de responsabilité codée en dur, c'est un risque majeur. Déguisé en optimisation de temps, c'est ça la leçon.
Exactement.
Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Là, on a parlé de tech, de logiciel. Un bug, bon, ça coûte cher à une boîte, c'est relou, mais tu fais un correctif et c'est réglé.
Oui, il y a rarement mort d'homme.
Mais imaginons un instant que cette matrice ultra stricte de la responsabilité humaine, le répondre d'eux, avec ses blocages déterministes, soit imposée dans des secteurs beaucoup plus critiques.
Tu penses à quoi ? La médecine, par exemple ?
Par exemple, imagine appliquer ce même cercle où tu as 5 humains qui valident au démarrage et un substrat technique qui bloque le résultat final. À des diagnostics médicaux complexes faits par des IA dans les hôpitaux.
Ah ouais, le wall clock pour les médecins.
Voilà. Ou si on transpose ce calcul chirurgical des heures de supervision obligatoire aux algorithmes qui suggèrent des décisions de justice dans les tribunaux.
C'est un changement de paradigme total.
Au final, la méthode qu'on a décortiquée aujourd'hui, moi je trouve que ça ressemble presque au premier brouillon d'un futur code de loi de la robotique.
Une législation interne des entreprises du 21e siècle ?
C'est ça. Pensée pour empêcher l'humain d'abandonner ses responsabilités par pure flemme intellectuelle. Assez fiable pour qu'on cesse de vérifier. C'est vraiment la phrase à retenir face aux énormes évolutions qui nous attendent.
Je suis 100% d'accord. C'est le vrai défi.
Eh ben, ça donne de quoi réfléchir. Merci d'avoir plongé là-dedans avec moi aujourd'hui, c'était passionnant.